Le désarroi de parents découvrant que leur ado est de droite et qu'il adhère aux éditos de Dominique Seux.
Il n'y a pas d'alternative avec la réalité.
Il n'y a pas d'autre choix.
Il n'y a pas d'alternative.
Ça passe pas bien, ça, cette idée-là.
Et pour la rentrée des Clés de l'écho, on accueille un nouveau chroniqueur, Félix Garnier. Bonjour Félix.
Bonjour Baptiste.
Alors tu es doctorant en économie du développement et en économie écologique à l'université de Bordeaux, c'est bien ça, je ne me trompe pas?
C'est bien ça.
Bienvenue à toi dans cette équipe de chroniqueurs économiques. Et pour cette première chronique, tu voulais nous parler de la taxation des super profits, une question qui a fait l'actualité ces dernières semaines et une mesure qui est toujours refusée jusque-là par le gouvernement et le président de la République, Félix.
Exactement. Dis-moi Baptiste, est-ce que tu connais Benoît Paire, le tennisman?
De nom, mais pas plus.
Alors, c'est un tennisman qui est devenu super connu sur Internet parce qu'il est très mauvais perdant. Et il est devenu connu notamment avec son fameux « la chatte qu'il a !» qu'il sort régulièrement pendant les matchs. Cette frustration, je pense que tu la connais, lorsque tu vois quelqu'un réussir et s'en tirer, alors qu'objectivement, cette personne ne fait rien de particulier pour mériter sa réussite. Alors je sais qu'on est ici pour parler d'économie et pas de tennis, mais il me semblait important de planter le décor avant d'aborder notre thème d'aujourd'hui, la taxation des super-profits. Certes, c'est moins sexy que la barbe de Benoît Paire, mais puisque c'est un sujet qui touche tout le monde et qui va nous permettre de parler à la fois de justice sociale et de justice environnementale, j'ai pensé que c'était une bonne idée de le mentionner. Concrètement, qu'est-ce que c'est un super-profit? Cette notion, elle apparaît en premier chez Marx, pour désigner le résultat d'une entreprise dont les profits sont largement supérieurs à ceux de ses concurrentes ou à ses bénéfices historiques. D'après Marx, il y a deux situations où ces profits apparaissent. Soit l'entreprise en question est en situation de monopole sur son marché, soit elle bénéficie d'un avantage technologique qui lui permet de dépasser ses concurrents. Avec le temps, cette notion a évolué. Aujourd'hui, on l'utilise pour désigner des profits qui sont largement supérieurs aux résultats historiques de l'entreprise, mais surtout qui ne sont pas liés à une stratégie de cette dernière. C'est une question de contexte, être là au bon moment ou savoir tirer d'une partie dans laquelle on n'a pas de responsabilité. Je pense que tu commences à voir où je veux en venir. Ces dernières années, est-ce qu'on n'a pas vécu des événements sur lesquels des entreprises n'ont pas de prise, mais dont elles ont su profiter? Personnellement, j'en ai deux en tête. La crise de la Covid et le bazar qu'elle a mis dans le commerce international et, surtout, sujet d'actualité, la guerre en Ukraine. Depuis quelques mois, on redécouvre ce que c'est que l'inflation un peu partout en Europe. Les prix de l'essence et du gaz atteignent des records et tout le monde s'attend à passer un hiver difficile à cause des factures d'énergie. Comme dirait Monsieur le Président, finito l'abondance. Mais est-ce que c'est vraiment le cas pour tout le monde? Comme souvent, non. Il y a, de façon vraiment évidente, des profiteurs de crise. Comme souvent, c'est du côté des très grandes entreprises qu'il faut regarder. L'un des exemples les plus criants, c'est nos chers amis de Total. L'an dernier, ils avaient déjà réalisé une année record en termes de profits, 16 milliards de dollars. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est à peu près le budget du ministère de la Santé et des Solidarités, où ce que touche 800 000 smicards en un an. C'est beaucoup. Et bien sur les deux premiers trimestres de 2022, soit moitié moins de temps, les bénéfices de Total sont déjà de 18,8 milliards de dollars. Il me semble important de préciser quelque chose ici. Que les prix augmentent à cause de la guerre en Ukraine, surtout dans les secteurs agroalimentaires et énergétiques, c'est logique, c'est même normal. En temps normal, l'Ukraine, c'est presque 10% des exportations mondiales de blé. Avec la guerre, c'est terminé, ça. De son côté, la Russie assure environ 45% des importations de gaz européennes de gaz naturel. Avec les sanctions, cet approvisionnement est fortement réduit. L'inflation, qui sera abordée, je crois, la semaine prochaine, à l'antenne de la Clé des Ondes, était donc globalement inévitable au vu du contexte. Ce qui pose problème, ici, c'est vraiment que certaines entreprises estiment qu'il est normal et légitime de profiter des crises pour se remplir les poches. Et c'est là que la question de la taxation des super-profits intervient. Parce que Total n'est pas la seule entreprise à profiter de la crise. Le groupe EDF Engie, par exemple, table sur une augmentation de ses bénéfices de 40% environ cette année. Les entreprises du secteur agroalimentaire ont dégagé, entre 2020 et 2021, 25 milliards de dollars de bénéfices de plus que sur la période 2016-2019. CMA-CGM, l'un des leaders mondiaux du transport de marchandises, a profité de la désorganisation post-Covid pour dégager 7,2 milliards d'euros de bénéfices au premier trimestre de 2022, et ainsi de suite. Alors si Bruno Le Maire ne sait pas ce qu'est un super profit, les dirigeants des grandes entreprises de l'énergie ou de l'alimentation, eux, les touchent du doigt et savent les capter. Injuste, n'est-ce pas? Ça l'est d'autant plus lorsqu'on se rappelle qu'en France, il y a 7 millions de logements qui sont considérés comme des passoires thermiques et que le nombre de bénéficiaires d'aides alimentaires a doublé en 2 ans. Encore une fois, les plus précaires vont trinquer de la situation. Et que faire? Que faire du coup? La réponse semble relativement simple. Taxer ces super-profits dans une logique à la fois de justice sociale et de justice environnementale. D'autant plus que ce n'est pas quelque chose de nouveau. Après les deux guerres mondiales, on a taxé les profiteurs de guerre en estimant que nul ne devait s'enrichir en capitalisant sur la détresse du monde. aux États-Unis, après les deux chocs pétroliers de 1974 et 1979, les super-profits des entreprises du secteur pétrolier ont eux aussi été taxés. Si nous connaissons la fin de l'abondance, taxer ces super-profits est un très bon moyen de récupérer de l'argent pour financer des trucs vachement chouettes, comme le bouclier tarifaire, qui protège de l'explosion des prix de l'énergie, ou la rénovation des passoires thermiques dans lesquelles les plus précaires vivent et devront passer l'hiver. C'est autant d'argent qui peut être investi par l'État dans le développement des énergies renouvelables, dans la transition écologique ou dans des politiques de sobriété. Après tout, les géants de l'énergie ne se sont pas distingués par leur volonté d'investir dans la sortie du gaz et du pétrole jusqu'ici. En le laissant dans la poche des actionnaires de Total, au contraire, on peut s'attendre à ce qu'une part importante de cet argent soit réinvestie dans des activités polluantes pour une raison relativement simple, ça rapporte. Pour l'instant, le gouvernement se refuse à taxer ses super-profits par aveuglement idéologique. Mais voilà, le contexte joue contre eux. De plus en plus de nos voisins, le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Italie, la Grèce et même l'Allemagne, ont mis en place ou annoncé mettre en place de telles taxes. La très libérale Commission européenne encourage les membres de l'Union à faire de même. Même l'ONU le recommande par la voix de son secrétaire général. Contrairement au match de Benoît Paire, la chatte du camp d'en face ne met pas forcément fin à la partie. Et pour conclure cette métaphore filée, je dirais même qu'on peut encore éviter d'éclater nos raquettes de rage. Alors, à l'occasion de cette rentrée sociale, montrons que la lutte contre la fin du monde est la même que celle pour la fin du mois. Demandons la taxation des super-profits et utilisons cet argent là où il devrait être utilisé, à la base, pour améliorer le bien commun.
Merci beaucoup Félix Garnier, doctorant en économie et nouveau chroniqueur de La Clé des Ondes. On te retrouve dans un peu plus d'un mois, je pense.
C'est ça.
Et d'ici là, notamment la semaine prochaine, ce sera, je crois, Léo Malherbe qui nous parlera, comme tu le disais, d'inflation. Spectre.